Sarkozy au Rwanda, quand un dirigeant français revient sur le lieu du crime. Jeudi 25 février, Sarkozy était en déplacement au Rwanda. Il s'agissait de renouer des liens avec son actuel président, Paul Kagame, le dirigeant du Front patriotique rwandais, FPR, qui a chassé il y a 16 ans l'ancien pouvoir Hutu, soutenu alors par la France et responsable du massacre de près d'un million de personnes, surtout de l'ethnie Tutsi, mais aussi des Hutus modérés. Les autorités rwandaises attendaient des excuses ou du repentir, comme ceux exprimés dès 1998 par les États-Unis et les Nations Unies, ou encore la Belgique en 2000. Le Rwanda devra se contenter du discours sur, entre guillemets, les graves erreurs d'appréciation, une forme d'aveuglement, quand nous n'avons pas vu la dimension génocidaire du gouvernement du président qui a été assassiné, que Sarkozy, qui n'aime pas s'excuser, a admis du bout des lèvres. Moyennant quoi, Kagame a accepté de participer à un sommet Afrique-France en mai et à une conférence sur des projets de développement regroupant les chefs d'État de la région des Grands Lacs. Tout cela n'est qu'un bel exercice d'hypocrisie de la part de Sarkozy. Le gouvernement français de 1994 connaissait très bien la situation du Rwanda, d'autant plus qu'il en tirait en partie les ficelles. Depuis 1975, la France avait des accords d'assistance militaire avec ce pays. Lorsqu'en octobre 1990, l'armée rebelle du FPR entra au Rwanda, le président du régime Habyarimana demanda à Mitterrand de l'aider à contrer le FPR, ce que le gouvernement français fit volontiers, tout en prétendant protéger seulement ses ressortissants. Les dirigeants français connaissaient les projets d'extermination du pouvoir Hutu. Les archives de la présidence française, rendues publiques depuis, ont montré qu'elle savait ce que tramait le gouvernement rwandais, notamment l'extermination des Tutsis. Mais la France lui apporta néanmoins un soutien total. L'armée française forma et réorganisa les forces armées rwandaises, FAR, pour qu'elles affrontent celles du FPR. Les FAR furent équipés et armés par la France, dont les troupes participèrent aussi au combat contre le FPR, l'empêchant notamment de s'emparer de la capitale Kigali dès février 1993. Des militaires français assurèrent une partie des contrôles d'identité à la source de l'élimination des Tutsis, puisque, grâce à l'ancienne puissance coloniale belge, les papiers d'identité rwandais mentionnaient l'origine ethnique. Le 4 août 1993, une négociation entre le pouvoir rwandais et le FPR aboutit aux accords d'Arusha. Les soldats français devaient laisser la place à la MINUAR, une force armée des Nations Unies. Ce fut chose faite en décembre 1993, mais la France maintint une assistance militaire auprès du gouvernement rwandais. Le 6 avril 1994, lorsque l'avion transportant le président du Rwanda ainsi que celui du Burundi fut abattu, cet attentat servit de prétexte au gouvernement rwandais, qui en était peut-être les commanditaires, pour lancer le massacre des Tutsis. La nuit suivante, les massacres commencèrent. La tristement célèbre radio des Mille Collines guida les massacreurs armés de machettes, leur indiquant où se cachaient des Tutsis, mais aussi des Hutus opposés à ces massacres. En 3 mois, jusqu'en juillet 1994, entre 800 000 et 1 million de personnes furent assassinées. Le massacre des Tutsis commence, les grandes puissances regardent ailleurs. Pour les États-Unis, la France, la Belgique, les Nations Unies, il ne fut pas question de distinguer la guerre civile entre les FAR et le FPR et les massacres des Hutus. L'expression, entre guillemets, de génocide des Tutsis était tabou. Dès leur arrivée, les troupes de la MINUAR avaient été invitées à ne pas intervenir. En janvier 1994, alors qu'elles pouvaient s'emparer des caches d'armes des milices Hutus, elles n'eurent pas l'autorisation de l'ONU. L'assassinat de 10 casques bleus belges et l'inertie de l'ONU firent que la Belgique retira ses troupes, la moitié des effectifs de la MINUAR. Le 21 avril 1994, alors que les massacres duraient depuis 15 jours, l'ONU prit acte du départ des soldats belges et réduisit ses effectifs militaires de 90%. Les massacres se poursuivirent, tandis que les dirigeants du monde, France incluse, regardaient ailleurs. En mai 1994 seulement, devant l'ampleur du massacre, l'ONU voulut mettre en place une MINUAR 2, mais l'affaire traîna en longueur. Dans l'intervalle, la France obtint de l'ONU d'intervenir par l'opération Turquoise, qui dura du 22 juin au 22 août 1994, quand la MINUAR 2 prit le relais. C'était la phase finale des massacres, mais aussi le moment où le FPR remportait la partie, entraînant la fuite vers les pays voisins des dirigeants hutus et de leurs hommes de main. Le lieutenant-colonel français Hogard, en situation d'arrêter le président hutu et un de ses ministres en fuite vers le Zaïre, les laisse affiler. Lorsque les militaires français localisèrent la radio des Mille Collines, ils reçurent l'ordre de ne rien faire. Et que dire du fait que, dans les 15 premiers jours de l'opération turquoise, les soldats français furent prétendument, entre guillemets, informés que c'était en fait les Tutsis qui massacraient les Hutus. Si l'actuel président français a si bien su, lors de sa visite officielle du musée du génocide de Kigali, esquiver les panneaux rappelant les responsabilités de la France, c'est qu'il n'ignore rien du rôle et de l'influence de ses prédécesseurs. Une influence qu'il aimerait bien pouvoir reconquérir d'une façon ou d'une autre. Jacques Fontenoy.